Parlons éthique et affaires, votre rendez-vous mensuel pendant lequel les étudiants du master droit et éthique des affaires reviennent sur un pan du droit encore méconnu du grand public. Des interviews de professionnels du monde de la compliance vous en diront davantage sur la relation qu'entretiennent les entreprises avec l'éthique.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième numéro de notre podcast Parlons éthique et affaires, qui va rester dans la continuité du dernier numéro, puisque nous allons aujourd'hui traiter du devoir de vigilance. Alors pour parler plus en profondeur de ce sujet passionnant, nous sommes aujourd'hui en présence de Maître Hélène Berrion, avocate au barreau de Paris et avocate au barreau de New York, et ancienne élève du master droit et éthique des affaires, qui a notamment l'occasion de traiter dans le cadre de son métier de nombreux sujets de compliance, y compris donc le sujet du devoir de vigilance. Alors avant de laisser la parole à Hélène, nous allons brièvement vous présenter le sujet et vous expliquer en fait ce qu'est le devoir de vigilance. Donc le devoir de vigilance en France a été mis en place par une loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Concrètement, ce devoir de vigilance donne une obligation de vigilance aux sociétés mères et aux entreprises dites donneuses d'ordre. En somme, il s'agit de contraindre ces entreprises à être vigilantes quant aux pratiques de leurs filiales et sous-traitants en matière de droits humains et de problématiques environnementales. Précisons que ce devoir de vigilance ne concerne pas toutes les entreprises, mais seulement les entreprises françaises employant au moins 5000 salariés en France, ainsi que les entreprises dont le siège social est situé dans un autre pays, mais employant en France 10 000 salariés. Donc, maintenant que nous avons un petit peu mis en place le cadre de cette loi de vigilance, Hélène, pourriez-vous nous expliquer pourquoi la France a décidé de mettre en place cette loi, se plaçant ainsi pionnière en la matière ?
Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je pense qu'il est important de rappeler que la prise en compte des droits humains et environnementaux par les entreprises et la notion de responsabilité sociétale, c'est pas quelque chose de nouveau. À l'origine, le respect des droits de l'homme était une obligation qui était mise à la charge de l'État, qui devait en garantir l'effectivité. Et en fait, depuis les années 70, avec la multiplication des commerces transnationaux, la mondialisation, il y a une prise de conscience du rôle des entreprises en matière de protection des droits humains et environnementaux. Et cela s'est traduit par l'adoption de différentes normes internationales. Il existe un cadre normatif, un corpus de normes qui relève du droit souple, ce qu'on appelle de la soft law, pas des obligations légales en fait faites aux entreprises. C'est les entreprises qui adoptent ces démarches RSE de façon proactive. Dans un deuxième temps, on a estimé que cette approche volontaire des entreprises était insuffisante. Et le législateur s'est petit à petit orienté vers une approche de plus en plus contraignante. Donc on a eu diverses législations en droit français. Hein. On a eu la loi sur les nouvelles régulations économiques en 2001, la loi NRE, qui a obligé certaines sociétés cotées à publier dans leur rapport de gestion annuel des informations concernant les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Il y a eu également différentes lois sectorielles, notamment en matière de droit du travail, avec la lutte contre le travail dissimulé. L'événement qui a mis en exergue la nécessité d'imposer aux multinationales une obligation légale de prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et environnementaux, c'est le drame du Rana Plaza qui s'est déroulé en avril 2013, qui a été l'effondrement en fait d'un immeuble au Bangladesh qui abritait des ateliers de confection de nombreuses entreprises de textiles de grandes marques occidentales et françaises notamment. Donc l'immeuble s'est effondré sur ses ouvriers qui travaillent dans les ateliers et a fait plus de 1100 morts et 2000 blessés. Donc cet événement, ça a été vraiment le symbole d'une prise de conscience de la nécessité de réguler le comportement des multinationales vis-à-vis de leurs sous-traitants et de toute leur chaîne de valeur.
Alors oui, tout à fait. Nous pouvons notamment citer les marques Auchan, Carrefour ou encore Mango, dont nous avons pu retrouver les étiquettes au sein des débris de l'immeuble du Rana Plaza.
Tout à fait. Et en fait, les ONG et la société civile, de façon générale, se sont emparées de cette question qu'elle mettait en avant, c'est l'impunité des multinationales. Et en fait, le fossé entre la réalité économique des groupes et de leur sphère d'influence avec la réalité juridique de l'autonomie de la personne morale. L'objectif, en fait, c'était de pouvoir permettre aux victimes de ces catastrophes. Là, on parlait du Bangladesh, il y a également au Qatar, les travailleurs sur le chantier de la Coupe du Monde, le drame du Bhopal en Inde. L'objectif, c'était de pouvoir aller chercher la responsabilité de ces sociétés mères qui étaient en fait solvables face à des employeurs locaux, bien entendu, qui ne pouvaient pas dédommager ces salariés.
Alors merci Hélène. Donc la loi sur le devoir de vigilance est intervenue afin d'encadrer l'activité et la responsabilité des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre qui vont être concernées par les seuils posés par la loi. Cette loi va imposer à ces sociétés de mettre en place un plan de vigilance qui va être relatif à ses activités et à celles des filiales qu'elle contrôle. Ce plan va devoir notamment contenir des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés. Alors donc là, maintenant, on sait ce que la loi dit, mais finalement, quelles sont les mesures que le plan doit contenir ? Et une autre question, c'est savoir comment on va finalement mettre en place ce plan ?
Alors, le plan de vigilance, enfin les mesures qui doivent être incluses dans ce plan de vigilance sont au nombre de 5. Donc, la première mesure, c'est la réalisation d'une cartographie des risques qui va permettre aux entreprises d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser leurs risques en matière de droits humains, environnementaux, santé, etc. Ensuite, il faut mettre en place des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels l'entreprise entretient une relation commerciale établie. En pratique, ces procédures d'évaluation, elles peuvent se traduire à travers des plans d'audit, des évaluations par des questionnaires, des formations, du reporting régulier. Sauf que concrètement, c'est une mesure qui est assez difficile à mettre en place compte tenu du nombre de sous-traitants et de fournisseurs avec lesquels les grandes entreprises ont des relations commerciales établies. Généralement, ça se compte en dizaines de milliers. Donc ça, c'est une mesure qui est assez compliquée à mettre en œuvre. La troisième mesure, c'est d'établir des plans d'action d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. La quatrième, c'est la mise à disposition pour toutes les parties prenantes d'un dispositif d'alerte et de recueil de signalements en cas d'observation de comportements qui seraient non conformes. Enfin, l'entreprise doit mettre en place un dispositif de suivi de ces mesures mises en œuvre et d'évaluer régulièrement l'efficacité de ces mesures. Donc le plan et le compte-rendu de sa mise en œuvre doivent être rendus publics dans le rapport de gestion annuelle de la société. Par contre, ce qui est important aussi de souligner, je pense, à ce stade, c'est que si ces mesures sont au nombre de 5 et décrites de façon assez claire dans la loi, il y a quand même une marge de manœuvre assez importante qui est laissée aux entreprises pour apprécier quel type de mesures elles souhaitent mettre en place.
Merci Hélène pour votre réponse. Non seulement il est nécessaire effectivement de définir finalement ce que sont ces mesures de vigilance qui sont attendues par la loi, mais la loi mentionne également une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales. Donc ces mesures sont destinées à prévenir cette atteinte. Mais finalement, qu'est-ce que cette atteinte grave et de quelle manière peut-on la caractériser ? Est-ce que la loi nous donne des pistes et où on est dans la pratique aujourd'hui ?
Vous avez soulevé un point très important, c'est l'absence en fin de compte de définition précise qui est une des grandes fragilités de la loi, qui réside dans sa rédaction même en fait. L'absence de définition de certains éléments fondamentaux, comme vous l'avez dit, une atteinte grave, c'est une source d'insécurité juridique assez importante pour les entreprises. Donc 4 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, on constate qu'il y a quand même une compréhension encore hasardeuse de cette législation et de ses enjeux. Et c'est d'ailleurs cette absence de clarté et de lisibilité a été soulevée et relevée dans un rapport qui a été remis au ministère de l'Économie en 2020. Enfin, je vous rappelle, le plan de vigilance recouvre des notions extrêmement larges. On parle de droits humains, liberté fondamentale, sécurité des personnes, mais la loi ne donne aucun critère qui permet de définir ce qu'est une atteinte grave, ce que c'est un droit humain ou une liberté fondamentale. Donc là, si on comprend que le législateur a laissé souhaiter en fait aux entreprises une marge d'appréciation et une marge de manœuvre assez importante, parce que en fait, chaque entreprise, au regard de sa propre cartographie des risques, va identifier des risques d'atteinte grave aux droits humains et aux libertés fondamentales. Et chaque entreprise, en fait, en fonction de son secteur d'activité, vous imaginez que le secteur textile, secteur de l'énergie, secteur de BTP, ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes risques, et qu'elles ont nécessairement des plans d'action différents. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu imaginer des guidance, des recommandations plus précises faites aux entreprises pour les aider. Là, on les renvoie vers les normes, on les renvoie vers les principes directeurs de l'ONU, vers les principes de l'OCDE, mais il n'y a pas de cadre normatif précis. Et ce qui est aussi difficile pour les entreprises, c'est l'articulation. Comment on articule les obligations de la loi sur le devoir de vigilance avec toutes les autres obligations qui sont de plus en plus abondantes en matière de RSE, je pense au reporting financier, à la loi Sapin 2. Par exemple, sur la loi Sapin 2, vous avez une obligation de mettre en place une cartographie des risques de corruption. Le reporting extra-financier, on demande aux entreprises également de publier des informations sur les conséquences de ces activités en matière de droits humains et environnementaux. Et il y a un manque de clarté et les entreprises ne savent pas toujours comment articuler ces différentes obligations. Et donc ce manque de clarté et cette absence de recommandations précises, ça laisse un peu aux entreprises un sentiment de charge excessive et de ne pas savoir comment s'organiser, et est-ce qu'il faut mettre pour chaque législation une procédure spécifique, ou est-ce qu'il y a une possibilité en fin de compte de mettre en place un process harmonisé qui pourrait couvrir toutes les obligations RSE.
Alors une autre question se pose, c'est celle du contrôle, savoir comment est-ce qu'on contrôle ces entreprises, parler de justement comment savoir si les lois sont bien appliquées par les entreprises.
Alors, le contrôle de la conformité des plans de vigilance, en fait, elle s'effectue par l'intermédiaire de la société civile. Dans la mesure où la loi prévoit que toute personne qui démontre un intérêt à agir peut mettre en demeure une entreprise d'adopter ou de compléter son plan de vigilance, le contrôle, de facto, il est effectué par toute personne qui a un intérêt à agir. Et ce dispositif, en fait, il diffère complètement du dispositif qui est prévu par la loi Sapin 2, qui a, elle, choisi d'instaurer en fait une agence qui serait en charge en fait de contrôler et de sanctionner les entreprises dans le cadre de leur programme de conformité anticorruption, si celui-ci était inefficace.
Donc faisant ce parallèle finalement avec l'Agence française anticorruption, qui est effectivement une autorité en matière de lutte anticorruption et en matière de contrôle des entreprises, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile et que ça pourrait faire avancer les choses à ce stade de mettre en place une telle autorité en matière de RSE, de loi de vigilance?
Alors ça c'est mon avis strictement personnel, mais je pense que la nomination d'une autorité nationale à l'instar de l'AFA, toutes les questions RSE et notamment devoir de vigilance, serait très utile. Et en fait, une telle agence, dès lors qu'elle pourrait émettre des recommandations, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui manque en fait aujourd'hui, c'est des conseils, des recommandations pour que les entreprises puissent se référer à un cadre précis. Et l'intérêt, parce que l'objectif de cette loi aussi, ce qui était critiqué avant par les ONG, c'était le manque de sanctions et d'effectivité. Donc une agence, oui, par contre, il faudrait qu'elle puisse avoir des moyens de contrôle et qu'elle puisse infliger des amendes.
En effet, donc devant cette constatation, finalement, et également devant la constatation d'une loi encore très floue dans sa compréhension et dans sa mise en œuvre, se pose la question des sanctions. Est-ce qu'à ce stade encore précoce, on a des sanctions qui ont été mises en œuvre? Est-ce que ces sanctions se montrent à ce stade effectives?
Alors, déjà, je vais préciser que la loi prévoit deux mécanismes judiciaires pour garantir son application selon l'existence ou non d'un dommage. Donc il y a une première action préventive qui n'est pas conditionnée à la survenance d'un dommage et, comme je l'ai déjà dit, qui permet à toute personne justifiant d'un intérêt à agir, donc là c'est les associations de défense des droits humains, les syndicats, les populations affectées, donc ces personnes-là peuvent mettre en demeure l'entreprise qui ne respecte pas ses obligations et au bout de 3 mois, à compter de la mise en demeure, il leur est possible de saisir le juge pour enjoindre l'entreprise de mettre à jour son plan de vigilance. Et ça, le juge peut enjoindre l'entreprise sous astreinte financière. Le deuxième mécanisme, c'est l'action en réparation du préjudice. Ce mécanisme, il suppose préalablement la réalisation d'un dommage. Et dans ce cas, c'est la responsabilité civile de l'entreprise qui peut être engagée pour manquement à ses obligations de vigilance dans les conditions de droit commun. Toutefois, en fait, la mise en œuvre de cette action en réparation du préjudice, elle représente en pratique des difficultés de preuve et de la démonstration du lien de causalité entre le non-respect par l'entreprise du devoir de vigilance et la survenance du dommage. Donc, en pratique, ça va être difficile en fait, pour les victimes d'un dommage au Bangladesh d'aller montrer que la défaillance de la société mère dans son plan de vigilance a créé un dommage au Bangladesh. Donc là, vous me demandez aussi votre deuxième question, c'est sur les sanctions. Donc non, il n'y a pas eu de sanctions à ce stade, parce que c'est un peu trop tôt. Par contre, depuis l'entrée en vigueur de la loi, on compte 7 mises en demeure et 4 assignations devant les tribunaux pour non-respect du devoir de vigilance. Donc on entend beaucoup parler de la judiciarisation, d'un contentieux RSE. Je pense qu'il faut quand même toutefois relativiser cette notion de judiciarisation, parce qu'on est à 4 ans de l'entrée en vigueur de la loi et on compte une dizaine d'actions. Donc c'est pas non plus énorme. Alors juste pour vous citer quelques exemples d'entreprises qui ont fait l'objet d'une action de la part des ONG ou des associations. Donc il y a eu Suez qui a été mis en demeure en 2020 et on lui a demandé donc de modifier son plan de vigilance pour faire face aux défaillances alléguées du service d'approvisionnement d'eau qui était assuré par sa filiale chilienne. Il y a également EDF en octobre 2020 qui a fait l'objet d'une assignation par différentes ONG et communautés autochtones mexicaines qui l'accusent en fait d'avoir porté atteinte aux droits des populations locales dans le cadre d'un projet de mégaparc éolien au Mexique et notamment de ne pas avoir consulté les populations locales avant de faire voter le projet de parc éolien. Total également qui a été visé par 2 procédures, donc la première sur prétendue participation de Total au dérèglement climatique et la seconde assignation qui porte sur 2 projets pétroliers menés en Ouganda et en Tanzanie. Et là encore, les ONG ont saisi le tribunal de Nanterre pour enjoindre la société de modifier son plan de vigilance. Et elle pointait du doigt notamment les expropriations, les déplacements de population et diverses problématiques environnementales. Donc, les premières décisions qui sont tombées concernent les deux actions menées par Total. Les juges ne se sont pas prononcés sur le fond parce qu'on fait face à un premier débat qui est le débat de la compétence des juridictions pour évaluer ces plans de vigilance.
Il y a deux écoles. La première interprétation donnée par la Cour d'appel de Versailles qui estime que les tribunaux de commerce sont compétents puisque la Cour considère que les plans de vigilance sont des actes de gestion interne de l'entreprise et que par conséquent, les juridictions consulaires sont compétentes. Et cette interprétation, elle a été contredite ultérieurement par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre qui, lui, confie la compétence au tribunal judiciaire en estimant que bien qu'il s'agisse effectivement d'un acte de gestion, celui-ci excède très largement le strict cadre de la gestion de la société commerciale. Et il considère que les tribunaux judiciaires doivent être compétents car on touche à des sujets sociétaux.
Et enfin, la dernière assignation, c'est le groupe Casino qui a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, où se trouve le siège social du groupe, pour des faits de déforestation et de violation du droit de sa chaîne d'approvisionnement, sur le fondement également de la loi sur le devoir de vigilance. Elle s'appuie sur un rapport de l'ONG Envol, qui fait état d'un lien entre la viande bovine qui est vendue par Casino et la déforestation illégale et l'accaparement des terres des peuples autochtones. Donc, ce qui est intéressant avec l'affaire Casino, c'est que c'est une action en fait, qui est inédite, parce que jusqu'alors, on parlait d'actions préventives, donc pour demander aux ONG de mettre à jour leur plan de vigilance. Et là, avec Casino, on est dans la première action en responsabilité qui a été engagée sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance. Donc les ONG réclament à Casino 3 millions d'euros de dédommagement pour les indigènes, les populations locales qui ont été affectées du fait des fautes de vigilance de Casino. Et donc en fait, avec toutes ces actions, toutes ces différentes affaires, on constate qu'il y a une réelle diversité. Il n'y a pas un secteur d'activité qui est ciblé, vraiment tous les secteurs d'activité sont ciblés par les ONG et les associations.
Donc par tous ces exemples, on se rend compte que cette problématique dépasse les frontières. On a un projet de directive européenne sur le devoir de vigilance qui est actuellement en cours de discussion devant le Parlement européen et une résolution qui a déjà été adoptée en mars dernier. Ce projet, en plus de consacrer le devoir de vigilance français, a même pour ambition de le surpasser, puisqu'il va prévoir certaines mesures qui n'existent pas en droit français, comme notamment concernant les sanctions. Donc selon vous, Hélène, en quoi est-il nécessaire que cette directive européenne en la matière voie le jour? Et de quelle manière cela va-t-il permettre au droit français d'aller plus loin?
Alors, déjà avant de parler de la directive, je voudrais simplement préciser que voilà, la loi française a été pionnière sur ces sujets-là et elle a ouvert la voie à la nécessité en fait, d'avoir un devoir de vigilance de portée internationale et européenne. Avant de parler de la dimension européenne, il faut quand même signaler qu'il y a sur le plan international, il y a un projet de traité du groupe de travail de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme qui fait actuellement l'objet de discussions et qui prévoit également l'introduction d'un devoir de diligence en matière de droits de l'homme. Et ce traité aura une valeur contraignante, donc il faut quand même le signaler. Ensuite, il y a également de nombreuses initiatives nationales, donc il y a une quinzaine de pays en Europe au sein desquels il y a eu des propositions de loi ou des lois qui ont été adoptées sur le devoir de vigilance. On a eu la Hollande, l'Espagne, la Belgique, et là ce mois-ci d'ailleurs, au mois de juin 2021, l'Allemagne a également adopté son devoir de vigilance. Au niveau européen maintenant, il existait déjà des obligations, comme je vous l'ai dit, en matière de reporting, de publication d'informations non financières qui obligeaient certaines grandes entreprises à publier des informations relatives aux questions liées à l'environnement, social et aux droits de l'homme. Par contre, c'était des obligations déclaratives, donc on n'avait pas un devoir de vigilance comme il existe au niveau français. Il y avait deux règlements européens qui étaient spécifiques et sectoriels qui imposaient à certaines entreprises qui opéraient sur le marché intérieur de mettre en place des mesures de vigilance. Donc, ce règlement, c'est le règlement bois, qui vise à lutter contre la mise sur le marché européen de bois ou de produits dérivés qui sont issus d'une récolte illégale. Et il y a également le règlement relatif aux minerais qui proviennent de zones de conflit. Donc, ce règlement il est entré en vigueur en janvier 2021 et il impose aux entreprises de mettre en œuvre des diligences raisonnables à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement lorsqu'elles s'approvisionnent dans des zones instables ou en proie au conflit. Donc, avant de mettre en place, de faire justement voter cette directive, on a déjà un contexte européen qui est sensibilisé à la nécessité pour les entreprises de contrôler et d'avoir un regard sur leur chaîne de valeur. Maintenant, la difficulté, c'est que c'est soit des obligations déclaratives, soit avec les deux règlements, des obligations vraiment spécifiques et sectorielles. Le Parlement européen, donc, comme vous l'avez dit, a adopté une résolution en mars dernier et invite et pousse la Commission européenne à adopter un devoir de vigilance européen. L'objectif de cette directive serait justement de créer un cadre juridique harmonisé, transverse, afin d'assurer ce qu'on appelle en anglais un level playing field entre les entreprises européennes qui seraient soumises à la même législation. Parce que ce qui était critiqué en fait par les entreprises françaises, c'était la distorsion de concurrence entre toutes les entreprises non françaises qui n'étaient pas soumises à ces obligations assez lourdes et les entreprises françaises qui se disent bah, « vous êtes bien gentils, mais on est les seuls à avoir une obligation de mettre en place des mesures lourdes pour contrôler notre chaîne d'approvisionnement ». Et donc, il y a une vraie problématique de concurrence avec les autres entreprises. Donc, la résolution du Parlement européen a été accompagnée d'un projet de directive qui s'inspire, comme vous l'avez dit, du devoir de vigilance et qui va encore plus loin. En fait, on a le sentiment que les parlementaires avaient bien conscience des fragilités de la loi et qu'elles ont voulu combler ces fragilités et accentuer la dimension contraignante pour les entreprises. Et cela, ça se traduit notamment déjà par un article qui est consacré aux définitions de ce que c'est les relations commerciales établies, ce que c'est un fournisseur, un sous-traitant, ce qui n'était pas le cas dans la loi française. Également, on a un champ d'application des catégories d'entreprises concernées beaucoup plus étendu. On ne vise pas que les grandes entreprises, on vise également les PME qui sont cotées ou à haut risque. Donc beaucoup plus d'entreprises seront concernées par cette obligation. Et également sont concernées les entreprises étrangères, ça c'est inédit, qui vendent ou fournissent des services sur le marché intérieur, qui seront assujettis à ces obligations de vigilance. Ensuite, deuxième élément très important, on remet le mécanisme de sanction administrative, en fait, qui avait été initialement prévu dans la loi française, qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel, en raison justement de l'imprécision de la loi. Donc le projet de directive, il indique que la sanction doit être dissuasive. Et il précise que les autorités nationales pourront infliger des amendes qui seraient calculées sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles pourraient prévoir également d'exclure temporairement ou définitivement les entreprises sur les marchés publics, les interdire de bénéficier d'aides d'État, etc. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une volonté de contraindre et de mettre un mécanisme de sanction beaucoup plus efficace. Une autre chose également, c'est l'association avec les parties prenantes. Le projet de directive, donc, contrairement à la loi française, on oblige en fait les entreprises à définir un plan de vigilance en association avec les parties prenantes. En droit français, c'est le plan de vigilance a vocation à être fait, élaboré avec les parties prenantes. Mais en fait, il y a une étude également qui a montré que seulement 34% des entreprises mentionnent dans leur plan de vigilance l'association avec ces parties prenantes. Par ailleurs, tout à l'heure, on parlait justement de la nécessité de nommer une autorité nationale comme la FA. Et bien ça, c'est prévu par le projet de directive. Et le projet indique qu'il faudrait en fait charger une autorité nationale qui pourrait bénéficier d'un pouvoir d'enquête et de sanction. Ça, c'est également intéressant. Et last but not least, les parlementaires européens, ils ont envisagé également un mécanisme assez innovant en fait en termes de responsabilité qui prévoit qu'en cas de dommage, ça ne sera pas uniquement aux victimes d'apporter la preuve d'un lien de causalité, comme on l'a dit, entre les défaillances de l'entreprise et du plan de vigilance de l'entreprise et la survenance du dommage, mais ça serait également à l'entreprise de démontrer qu'elle a tout fait pour éviter que le dommage se produise ou que le dommage se serait quand même produit, même si les mesures avaient été en place.
On constate, hein, le projet de directive européen, il est très ambitieux, il va beaucoup plus loin d'ailleurs que le devoir de vigilance. Ce qui est également intéressant de souligner, c'est qu'un rapport de diverses ONG et associations qui a été publié en juin fait état des actions de lobbying assez impressionnantes qui sont menées par les multinationales au niveau de la Commission européenne pour limiter les obligations, les potentielles futures obligations des multinationales au titre d'un devoir de vigilance européen. Donc le premier projet de directive de la Commission aurait dû être publié en juin. Il y a du retard et on attend une publication potentiellement à la rentrée. Donc, en conclusion, il va être important à la fois pour les entreprises et les avocats hein, de faire un suivi et de suivre, d'être vigilant quant à ce futur projet européen et surtout aux décisions qui vont tomber dans le cadre des différentes actions qu'on a évoquées précédemment et qui vont permettre de donner une grille d'interprétation de la loi sur le devoir de vigilance.
Eh bien, merci beaucoup Hélène de nous avoir éclairé sur ces sujets faisant l'objet de vifs débats qui sont au cœur de l'actualité. Nous resterons donc attentifs à une évolution de la Commission européenne, mais également de la part de la jurisprudence française. Merci encore Hélène.